Bonjour et bienvenue chez Fricot Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, à deux voix, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Josiane, qui est l'auteur du livre « Entrepreneur d'exception », on va vous livrer les clés pour réussir et vous épanouir dans votre projet entrepreneurial. Bonjour Josiane et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Mais avant de passer à cette interview, je vous invite à télécharger votre cadeau dans la description, les 6 secrets de ta liberté financière. Alors justement, Josiane, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. L'entrepreneuriat, c'est un chemin de croissance et de développement personnel aussi. Et ce n'est pas que des questions économiques et des stratégies. Et toi, est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que tu es venue à l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a donné l'envie, l'idée de rédiger cet ouvrage « Entrepreneur d'exception » ?
Oui, alors le contexte de ce livre remonte un peu puisque j'ai eu l'idée d'écrire ce livre il y a 12 ans, au moment où justement je me suis mise à mon compte et je trouvais qu'à l'époque, on manquait beaucoup de rôle modèle. Les entrepreneurs, eux, étaient souvent vus comme des Wonder Woman en fait. Il y avait une image très stéréotypée. À l'époque, on ne parlait même pas de charge mentale. Et donc, l'entrepreneuriat était réduit à une logique business, une logique juste de chiffre d'affaires. Et je trouvais que dans les médias, il n'y avait pas de vrais conseils pour aider les femmes. Moi, je ne me reconnaissais pas, en fait, là-dedans. Et je voulais montrer qu'au contraire, on pouvait réussir à entreprendre, même quand on ne vient pas d'une famille d'entrepreneurs, ce qui est mon cas, même quand on a des petits moyens, ce qui est mon cas, et montrer que c'était possible. Donc, l'objectif de ce livre, c'était de montrer la diversité des profils, montrer des femmes qui entreprennent et montrer des conseils de la vraie vie, des conseils qui sont concrets, qui sont applicables. Donc ça, ça a été le point de départ. Et un peu plus tard, j'ai eu une chronique dans un magazine qui s'appelle Odyssée, où justement j'écrivais des chroniques sur des femmes qui ont entrepris à toutes les époques, dans tous les domaines, parce que je pense que l'entrepreneuriat est un concept très large, qui n'est pas seulement celui du business. Et donc, j'écrivais sur des sportives, des écrivaines, des biologistes qui sont parties de rien et qui sont allées très loin, avec des moyens souvent limités et des frais encore plus grands. Pourquoi ? Parce que moi, ça me rassure tout simplement de voir des femmes comme ça, parce que je me dis, bon, bah, si elle réussit avec tous ces obstacles-là, potentiellement, moi, je peux le faire aussi à mon échelle. Ça a été le point de départ de ce livre. Et puis ensuite, justement, on a rassemblé une partie de ces chroniques dans le magazine Odyssée que j'ai réécrite pour les agrémenter d'encore plus de conseils. Et il y a aussi des interviews d'aujourd'hui parce que c'était important justement de faire le parallèle entre le passé et le présent. Alors, je ne sais pas si tu dis entrepreneur ou entrepreneuse. En fait, elles sont lauréates du Bold Woman Award et du Bold Future Award, qui sont deux prix décernés par la maison Veuve Clicquot, qui récompense en fait chaque année des femmes qui entreprennent pour leur impact, pour leur audace, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Bold by Veuve Clicquot et qui soutient justement ce livre et qui soutient l'entrepreneuriat depuis 1972. Et je rebondis justement sur ta phrase, on ne naît pas entrepreneur, on le devient, parce que l'une des femmes que j'ai interviewée dans ce livre, elle s'appelle Céline Lazorte. Alors peut-être que les femmes qui nous écoutent la connaissent. Céline, c'est une entrepreneuse française qui a créé Litchi, Mangopay, qui a cofondé le collectif Sista, qui est investisseuse aujourd'hui. Et lors de son interview, elle m'a dit « il n'y a pas de gêne de l'entrepreneuriat ». Et ça, c'est très important parce que dans les moments de doute, dans les moments quand on entreprend, on se dit « c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, je n'ai pas le réseau », le fait de se dire « ça, en fait, tout ça, ça se construit ». Il n'y a pas de gêne de l'entrepreneuriat, on peut y arriver. Ça change la donne, ça change notre regard et notre perception sur nous-mêmes et sur nos capacités. Donc, ce que tu dis est très vrai. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et c'est justement grâce à tous ces outils, ces méthodes, ces conseils qui sont dans le livre que j'espère pouvoir aider les femmes à entreprendre. Parce qu'en effet, pour moi, c'est un processus. c'est un cheminement. Et il y a beaucoup de facteurs, pas seulement économiques et business, mais il y a aussi la notion du bien-être, il y a aussi les notions psychologiques, de l'énergie, du plaisir que l'on a dans l'activité qu'on lance, de son épanouissement et surtout de tenir sur la durée. L'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon et pas un sprint. Donc voilà, tous ces facteurs-là, en fait, tous ces aspects-là de l'entrepreneuriat, on les retrouve dans le livre et voilà, ça a été le point de départ de tout ça.
Alors moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre et justement, on a bien la même philosophie. J'ai créé Frico Féminin, moi aussi, pour aider des femmes à tomber ces problématiques de représentation, parce que moi-même, en ayant travaillé pendant plus de 25 ans là, dans les milieux du business, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, j'étais plutôt entourée d'hommes. Et quand j'ai vu arriver les femmes sur ces sujets, alors l'investissement, elles ne sont pas encore nombreuses, mais sur les sujets liés au business, eh bien, j'ai vu qu'il y avait une manière de voir les choses et de grandes disparités entre la vision des femmes et la vision des hommes. Et notamment, c'était accentué par le fait qu'on avait du mal à se reconnaître dans les standards de représentation qu'on nous renvoyait par rapport à ça. Hein. Moi, j'aime bien dire, je suis une maman avec les yeux qui brillent et j'ai plutôt tendance à interviewer des femmes simples, authentiques. Notre objectif, c'est plutôt d'avoir un bel équilibre de vie, plus de liberté, de transmettre des bonnes valeurs à nos gosses et d'avoir un impact positif sur la société et pas forcément d'aller chercher de la performance, ainsi de suite. Et ben oui, en standard de représentation et dans les médias classiques, aujourd'hui, on le voit, les disparités sont encore un petit peu partout. Alors certes, les femmes maintenant dans l'entrepreneuriat, c'est à peu près 40% des entrepreneurs. Par contre, c'est des plus petites entreprises parce que elles partent avec deux petits moyens et s'autorisent, moi, quelque part, à aller lever des fonds, faire grossir leur boîte et à sortir de la logique de l'auto-entrepreneuriat, qui est plus une logique de salariat qu'une logique réellement d'entrepreneur et d'investir dans un business qui grossit avec le temps. Ça s'apprend en fait, ça, justement, à développer cette logique. Ce n'est pas forcément ce qu'on nous a transmis, et notamment parce que nos mamans étaient peu nombreuses à être entrepreneurs et investisseuses. Je rappelle qu'en France, les femmes n'ont eu le droit de gérer leur argent librement qu'à partir de 65. Moi, c'est la génération de ma mère. Donc finalement, les femmes de ma génération, on est les premières, entre guillemets, à pouvoir le faire. La question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on se l'autorise aujourd'hui et on se l'autorisera plus facilement parce qu'on en connaît autour de nous, dans lesquels on peut se projeter, qui nous ressemblent et qui ont réussi à le faire simplement, tranquillement, avec leurs valeurs. Et ben forcément, on ne peut pas toujours se reconnaître dans les standards qu'on nous renvoie sur ces sujets, que sont des sujets où aussi la réussite nous est présentée avec des standards très masculins. Je pense que les femmes, pour beaucoup, nous n'avons pas les mêmes standards. Alors justement, je te propose qu'on passe désormais aux clés qu'on pourrait transmettre sur les sujets principaux qui pourraient bloquer les femmes pour les aider à avancer et à s'en sentir mieux dans leur projet entrepreneurial parce que votre entreprise, elle est aussi là pour soutenir votre vie et vos besoins d'épanouissement. Et la première des choses, c'est notamment cette réflexion qu'on a sur notre propre définition de la réussite. Moi, je sais que chez les personnes que j'accompagne, je les fais se projeter, et ça aussi, les femmes, on ne nous a pas forcément appris à nous projeter. On le voit, la génération d'avant, c'était plutôt les papas et les papis qui parlaient projection, là où les mamans géraient le quotidien et les enfants. Et ça retransparaît, je le vois, dans les projets entrepreneuriaux des femmes, où elles sont plutôt dans une réflexion sur l'action au quotidien, et pas forcément sur la prospection, et pas forcément sur l'idée de se dire quelle est la vie que j'ai envie d'avoir, et mon business doit servir ça. Est-ce que ça, justement, tu l'as aussi observé?
Oui, tout à fait, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Souvent, les femmes minimisent à la fois leurs capacités et leur projet entrepreneurial. Le nombre de fois où j'ai entendu « Ah, mais moi, je fais un petit projet, hein, c'est pas… » Pourquoi c'est un petit projet, en fait? Un projet, c'est un projet. C'est très important, en fait, d'avoir un projet dans tout ce qu'on va déployer en termes d'énergie, de travail, d'effort, d'investissement. Il n'y a rien de petit là-dedans. Donc, en effet, c'est très important de réfléchir en amont à qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce projet, avec cette activité. Réussir pour moi là-dedans, ça veut dire quoi? Et en quoi est-ce que ces facteurs-là de réussite sont personnels et uniques? Parce que souvent, en effet, on calque des conditions qui sont très standards et qui ne nous appartiennent pas. Et je pense que ce n'est pas ce qui nous rend heureux ni épanouis. Donc, en effet, avoir ce temps d'introspection et de réflexion sur la réussite qui peut bien sûr évoluer au fil du temps, ce n'est pas quelque chose de figé, Mais il y a un vrai sujet là-dessus, c'est sûr. Ouais.
C'est pas uniquement le niveau de chiffre d'affaires de votre entreprise ou le fait d'avoir des clients, mais c'est d'y trouver du plaisir. C'est d'assurer un équilibre dans votre vie et savoir l'impact que vous voulez avoir. Vous pouvez tout avoir. Alors, je le vois dans les croyances inconscientes qui nous empêchent des fois d'avoir la vie qu'on a envie d'avoir. Alors certes, il faut prendre des décisions rapides, faire des choix, mais c'est pas forcément un renoncement. On peut aussi décider de tout avoir et concevoir son projet d'entreprise comme ça. C'est important de prendre des temps pour prendre du recul et de se dire, parfois quand on est serré, j'en vois pas mal des femmes des fois qui sont serrées dans leur projet entrepreneurial, de renourrir sa vision, parce que c'est ça qui fait que parfois vous n'arrivez pas à faire décoller votre business. La deuxième chose, c'est la question de la confiance en soi. Alors, je vois pas mal de femmes qui me disent, je n'ai pas confiance en moi. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit et entre guillemets qui se muscle dans le temps via différentes choses. Le dialogue intérieur qu'on nourrit, les personnes qui sont autour de nous et le fait de s'entourer de personnes de confiance et qui nous aident à nous élever. Et puis, notre manière de percevoir le monde. Est-ce que ça aussi, tu l'as observé?
Oui, j'ai dédié un chapitre entier à la confiance en soi. Et c'est intéressant parce qu'en effet, les femmes, la plupart, elles disent « Ah oui, mais moi, je peux pas, j'ai pas confiance en moi. » Comme si la confiance en soi, c'était le sésame qui allait ouvrir toutes les portes et qui allait faire en sorte que tout serait plus facile. Alors que je pense que la confiance en soi, c'est pas du tout ça. En effet, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un muscle, c'est quelque chose qui s'entretient. Il y a des domaines dans lesquels on a confiance en nous, il y en a d'autres dans lesquels on n'a pas confiance, et c'est OK. On n'est pas tout le temps confiant et au top, et c'est tout à fait normal, on est humain. Et surtout, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir confiance pour entreprendre. Il y a un sujet en fait là-dessus, parce que pour reprendre d'ailleurs l'interview que j'ai eue avec Céline Lazorte, elle me disait, mais moi, je n'avais pas confiance en moi, ça ne m'a pas empêché d'avancer, d'entreprendre. Parce qu'en effet, à partir du moment où on a des gens qui vous soutiennent, des gens qui travaillent avec vous, et qu'on a quand même l'élan et l'impulsion de travailler, d'aller de l'avant, il n'y a pas besoin forcément d'avoir confiance. C'est-à-dire qu'on cherche une sorte d'idéal d'être et de paraître. Qui n'est pas obligatoire. Évidemment, c'est mieux d'avoir confiance. Mais la confiance, elle vient surtout dans le fait d'observer qu'on est capable d'y arriver, qu'on est capable de passer l'étape suivante, en fait. Et ça, à partir du moment où on se met en marche, où on se met en action, on le voit. Donc, la confiance, elle vient de là. Elle vient d'abord de l'action. Or, souvent, on se dit, il faut d'abord que j'ai confiance en moi pour agir. Non, c'est l'inverse. Il faut d'abord agir pour ensuite créer un sentiment de confiance qui nous montre qu'on a quand même réussi à faire quelque chose qui n'était pas facile à la base. Donc, c'est très important de rétablir ce graal autour de la confiance. C'est mieux si on en a, et ça se travaille. Et si on n'en a pas, c'est pas grave, ça va pas nous handicaper. Et après, la deuxième chose sur la confiance que je voulais dire, c'est que dans mon livre, je donne des clés de confiance à partir de Serena Williams, la célèbre tenniswoman, qui, elle, a ce qu'elle appelle un carnet de confiance. C'est-à-dire qu'avant chaque match et pendant chaque match, elle lit son carnet de confiance dans lequel elle a compiler un certain nombre de phrases qui vont lui donner justement confiance, qui vont lui donner une certaine forme d'audace, d'énergie, d'envie d'y aller. Et ces phrases, elles sont chouettes en fait, parce qu'on peut les appliquer, nous, dans notre quotidien, avant quelque chose d'important à faire, avant un projet justement qui nous déstabilise ou une réunion qui est importante. On peut lire ces phrases, ce qu'on appelle aussi des affirmations positives, mais des phrases qui vont nous dire « Allez, j'y vais, là, je donne tout, j'ai confiance, j'y vais. » Et après, on est tellement fiers de l'avoir fait que c'est important de passer aussi par ces étapes-là qui sont un peu désagréables sur le coup, mais après qui participent justement à une certaine forme de fierté et de confiance en nous.
Oui, alors ça, c'est un mécanisme à enclencher. À partir du moment où on a commencé à passer les premières marches, et justement, c'est aussi souvent en regardant. Moi, je le vois parce que j'accompagne pas mal de femmes qui ont cette problématique de confiance en elles pour justement avancer dans l'entrepreneuriat et ou avancer dans l'investissement. Et c'est le fait aussi de se rappeler toutes les marches qu'on a passées et de regarder en se disant « oui, je suis quand même celle qui a réussi tout ça », qui fait qu'on a peur mais on avance quand même. Et après, on a la fierté de se dire, j'ai réussi tout ça. Donc, quelque part, notre muscle de confiance rentre en phase d'expansion. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut pas rentrer dans ce spectre où le manque de confiance en soi serait une excuse pour ne pas agir, puisque la confiance en soi va venir de l'action. Mais c'est important dans ces moments-là, à la limite, de se faire accompagner par quelqu'un en qui vous avez confiance, une personne qui ne vous lâchera pas et qui va vous aider à passer ces différentes strates. Après, vous pourrez le faire toute seule. Autre sujet, c'est le sujet, je l'ai vu dans ton livre, qui est un sujet que j'aime énormément, qui est le rapport à l'argent et à la réussite. Il y a énormément de femmes qui témoignent du fait que justement, elles n'étaient pas du tout armées pour devenir investisseuses, pour faire croître leur business et pour parler d'argent de manière aisée. Et oui, c'est un des sujets les plus compliqués chez les femmes dans l'entrepreneuriat.
Oui, j'ai vu beaucoup d'entrepreneuses qui ne se payent pas, qui ne cherchent pas à être rentables et qui, comme on l'a dit, minimisent leur projet en disant que c'est un petit projet. Et en fait, à travers ça, elles minimisent aussi leur capacité, leur impact, leur pouvoir, leur place dans l'écosystème. Et moi, je voudrais leur dire qu'elles sont tout à fait capables d'être indépendantes financièrement. Clairement, il y a un immense tabou autour de l'argent et aussi dans l'entrepreneuriat féminin. Et je pense qu'il est très important de dire aux femmes qu'elles peuvent chercher à gagner de l'argent, à avoir un projet qui est rentable. Et c'est très important pour la pérennité du projet. Parce qu'un projet qui démarre et qui ne l'est pas au début, d'accord, mais un projet qui ne le devient pas, au bout d'un moment, il est obligé de s'arrêter. Donc, en fait, il ne faut pas mettre ces aspects-là sous le tapis, ce qui est aussi souvent le cas, c'est-à-dire que les femmes se lancent et elles consacrent beaucoup de temps et d'énergie au marketing, à la communication, aux réseaux sociaux, etc., etc. Et puis, elles se disent, bon, bah, tout ce qui est compta et rémunération, on verra plus tard. La deuxième chose que je vois, c'est qu'elles se font passer toujours en dernier. Et notamment avec l'argent. Elles payent les autres ou elles réinvestissent dans leur entreprise et elles ne se payent pas. Mais pourquoi ? C'est très important de se payer. Au contraire, c'est ce qui fait aussi que vous allez pouvoir tenir sur la durée, que vous allez pouvoir être indépendante financièrement. Donc tout ça, en effet, on l'évoque dans le livre parce que c'est un sujet qui, je pense, qui détruit en fait beaucoup d'entreprises et de carrières féminines. Et il n'y a pas de raison qu'elles ne se payent pas. La troisième chose, c'est que je pense qu'il faut investir en soi. C'est en vous. Vous êtes le facteur le plus important. Donc, bien sûr que vous allez investir dans votre entreprise, mais il faut aussi investir dans, je ne sais pas, des formations, par exemple, qui sont importantes pour vous, dans du coaching, comme tu l'as dit, pour avoir un soutien, pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment très, très important parce que déjà qu'il y a une inégalité dans l'argent que les femmes arrivent à lever avec leur entreprise, clairement, on n'y est pas encore par rapport aux hommes entrepreneurs. Donc, si elles-mêmes, en plus, elles ne se payent pas, elles ne cherchent pas la rentabilité, elles minimisent leur capacité et leur impact, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut qu'elles le fassent pour elles, il faut qu'elles le fassent pour l'écosystème aussi, et aussi pour toutes les générations suivantes qui les regardent. Toutes les femmes qui entreprennent, elles sont des modèles en fait pour les autres. C'est très important parce qu'elles ne le voient pas forcément, mais moi je le vois. Chaque femme qui entreprend, elle a une place et un pouvoir et une puissance immense dans ce qu'elle va refléter et en quoi est-ce qu'elle va aider en fait d'autres femmes à les inspirer et à leur montrer qu'on peut y arriver. Donc cette notion d'argent, elle est vraiment fondamentale, il ne faut pas passer à côté de ça.
Oui, alors comme justement c'est un sujet qui est extrêmement tabou chez les femmes et que inconsciemment en France, on associe depuis toujours la féminité au don, aux soins et à la gratuité, les femmes ont du mal à recevoir et à recevoir en abondance et à se faire passer avant les autres. Pourquoi ? Parce que depuis des générations, elles s'occupent gratuitement des uns et des autres. Et d'ailleurs, quand elles entreprennent, souvent, c'est sur on va dire, des métiers de l'accompagnement et du soin en proportion d'activité. C'est ça qui fait que ça coince chez les personnes que j'accompagne. C'est très, très important, dès le démarrage du projet d'entreprise, placer l'argent au bon endroit et d'en faire une condition de durabilité et quelque part un moyen. Moi, j'aime bien dire une entreprise qui va passer le temps, c'est comme une plante. Il faut que les ressources soient durables. Hein, donc, et dans les intrants de la plante, eh bien, il y a l'argent, tout, au même titre que les compétences, c'est ce que tu disais, et l'énergie qu'on y met. C'est ça aussi qui fait qu'on a quelque part un arbre qui produit de beaux fruits et de beaux fruits durables qui vont derrière ressemer pour les générations futures. C'est important aussi ce que tu le disais. Souvent, un des leviers de motivation pour les femmes pour travailler sur leur rapport à l'argent, c'est ce qu'elles transmettent à la génération d'après. Et c'est notamment de transmettre à leurs filles ou à leurs fils des croyances et une manière d'agir qui est différente de celle qu'elles ont pu recevoir de leurs parents. Autre chose, on parlait de la question de l'énergie. Et oui, la question de la santé, de l'équilibre et de l'énergie, eh ben, c'est quelque chose qui est très très présent dans les préoccupations des femmes. Alors moi, j'ai passé toute une partie de ma vie à accompagner aussi des hommes sur ce sujet-là et ça revenait très très peu dans les discussions, alors que les femmes justement ont très peur de sacrifier les relations, de sacrifier leur énergie dans leur business. Et j'en vois parfois qui viennent à l'entrepreneuriat, on va dire autour de la quarantaine, après une phase d'épuisement professionnel dans le salariat. Et souvent, elles peinent à positionner leur énergie et leur épanouissement. Et elles restent branchées sur ce canal de entrepreneuriat égale travailler dur et mériter.
Oui, alors l'énergie, pour moi, c'est un sujet clé. C'est vraiment très important. Et en effet, parfois, c'est un peu mis sous le tapis parce qu'on se dit oui, mais bon, c'est un détail. Alors que pas du tout. Prendre soin de soi, ce n'est pas optionnel, en fait. C'est obligatoire. Parce qu'en effet, sinon, on finit en burn-out, en épuisement professionnel. Donc, pour moi, l'énergie, la gestion de son énergie, c'est une condition sine qua non dans l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet que j'ai indiqué dans le livre. La première, c'est, je pense, identifier les tâches qui me prennent de l'énergie. Et à l'inverse, les tâches qui m'en donnent. Qu'est-ce qui, au quotidien, dans mon travail, me demande beaucoup d'énergie, m'épuise, et à l'inverse, quelles sont les activités, les missions, les tâches qui, au contraire, vont me booster. C'est très important d'avoir, de prendre ce recul et de voir, en fait, cette distinction et de voir aussi leur proportion. Parce que si vous lancez un projet et que vous ne faites que des tâches quasiment au quotidien qui vous prennent énormément d'énergie, qui vous épuisent, ça ne va pas. Il y a un équilibre à retrouver. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut se demander chaque matin, une fois qu'on a fait toute sa to-do list interminable, est-ce que j'ai le temps et l'énergie pour arriver à faire tout ça? Parce que parfois, on se charge la mule inutilement et on ne prend pas ce temps pour se demander, mais en fait, est-ce que j'ai la capacité de faire tout ça? Est-ce que là, dans mon état actuel, j'ai l'énergie de faire tout ça? Si la réponse est non, il faut supprimer des tâches et il faut accepter que ce n'est pas grave, que personne ne va vous en vouloir en fait de ne pas faire tout ça. Souvent, c'est un rapport entre soi et soi, hein. Mais l'énergie, elle part de là. Je pense qu'il peut être aussi intéressant de mettre des pauses dans son agenda, délibérément, ne pas attendre qu'elles existent, mais les poser. Dès maintenant, ça peut être au début de la semaine, au début du mois, qui sont des temps de repos, des temps pour recharger les batteries, des temps où vous vous faites plaisir, où vous allez vers des activités, des loisirs qui justement vont vous régénérer et d'accepter que ces temps, ils sont précieux. C'est pas quelque chose que vous allez enlever si vous avez trop de travail parce qu'ils vont vous permettre sur le long terme de pouvoir durer. Et je rejoins ce que tu dis sur la notion de sacrifice. Je pense qu'il est important de dire aux femmes que vous n'êtes pas là pour vous sacrifier pour votre boîte, pour votre activité, pour votre job. C'est pas le but. Parce que quand on fait ça, on se met dans une posture d'échec. Je pense qu'au contraire, un projet, il est beau quand il nourrit la personne, quand il lui apporte quelque chose, quand il l'élève, pas quand il la fragilise. Souvent, on entend des entrepreneurs qui disent « Oui, mais ma boîte, c'est mon bébé. Je suis ça. Je suis ma boîte. » Alors que non, en fait, y a une notion de dissociation qui est importante à avoir entre son identité et son entreprise ou son activité ou son job. Vous êtes beaucoup plus que votre entreprise. Vous êtes beaucoup plus que votre projet. Vous êtes une personne à part entière. Vous avez des goûts, des activités, des choses en dehors. Vous n'êtes pas que ça. Et ça, je pense que dans la gestion de l'énergie, c'est aussi important de garder cette petite aide en mémoire pour éviter de ramer, de se surcharger inutilement et de toujours avoir un espace en fait qui va nous régénérer, qui va nous rebooster, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir tenir et avoir du plaisir surtout à travailler. C'est quand même ça le plus important dans la vie, c'est qu'il faut qu'on ait du plaisir à faire tout ça en fait.
Et oui, et ça c'est aussi important, c'est de nourrir sa vie de passion, de choses qui nous épanouissent et qui nous font kiffer. Moi, je vois pas mal de personnes qui sont essorées, pas à cause de leur planning, c'est véritablement parce qu'elles ne prennent plus plaisir et s'obligent à faire des choses qui ne vont pas. Et il suffit d'enlever tout ça, de recentrer sur, on va dire, entre 20 et 1% de choses qui transforment dans leur business et de rajouter des choses qu'elles font juste parce que ça leur plaît et que ça les met dans une belle énergie pour retrouver un équilibre qui remet de la durabilité dans leur entreprise. Et puis, on le disait aussi, ben, c'est le rôle de notre entourage. Il y a plein de personnes qui pensent qu'il est extrêmement noble de réussir toute seule. Ça, c'est un peu le syndrome de la bonne élève qui a des bonnes notes toute seule à l'école. Dans l'entrepreneuriat, ce truc-là ne fonctionne pas. Ça va vous mettre à genoux. C'est extrêmement important de bien s'entourer personnellement, c'est-à-dire dans sa vie personnelle, d'avoir des personnes qui ne nous mangent pas notre énergie, mais qui nous amènent plutôt de la paix intérieure et qui nous soutiennent en tant que femme, d'organiser sa vie familiale pour pouvoir se dégager du temps pour son business. Et puis, c'est également avoir un réseau de soutien pour évoluer. On est poreux aux relations, elles nous élèvent autant qu'elles peuvent nous plomber, entre guillemets. C'est extrêmement important de réfléchir en ces termes-là. Toi, j'imagine que tu fais des interviews aussi parce que ça te nourrit. Moi, je sais que j'ai une chaîne d'interviews, on me pose toujours la question, mais pourquoi est-ce que tu fais des interviews? Je dis, mais parce que moi, j'aime les gens, donc ça me fait un plaisir absolument dingue. Ça me nourrit justement en énergie de le faire, donc c'est absolument pas quelque chose qui me plombe et qui me mange de l'énergie, et du contraire, ça me nourrit. Et les relations, bah, ça fait partie des richesse de la vie, et c'est essentiel de bien s'entourer quand on est entrepreneur.
Bah oui, tout à fait. Je pense qu'il est important de rappeler qu'en effet, on ne va pas y arriver toute seule. Ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut le savoir dès le début parce que n'empruntez pas cette voie, ça va pas marcher. La pire des choses pour les entrepreneurs, c'est l'isolement, c'est la solitude. Donc voilà, faut pas rester seul. Ça peut être d'aller rejoindre des collectifs, des réseaux, des incubateurs, des petits cercles, des petites équipes en fait, de gens qui s'entraident. Ça peut être aussi bien sûr de demander du soutien, des coachs, des mentors, tous ces gens, ils vont vous porter, ils vont vous aider à aller de l'avant. Ils vont aussi vous faire gagner souvent beaucoup de temps, parce que comme eux sont passés par là, c'est-à-dire par toutes les problématiques que vous avez, le fait d'aller leur poser la question, ça va vous faire gagner énormément de temps sur votre activité. Et puis, de savoir que des gens sont passés par là aussi, je pense que ça rassure. Ça rassure beaucoup parce que je vois beaucoup de femmes entrepreneurs qui me disent « Oui, mais j'ai l'impression de mal faire les choses. J'ai l'impression de ne pas faire assez bien ou de ne pas faire assez tout court. » Le fait de voir des gens qui sont passés par là et qui vont te rassurer, qui vont te dire que si, en fait, c'est très bien ce que tu fais, mais regarde, la prochaine étape, tu peux la faire comme ça. Ça change tout. Ça change tout pour l'activité et aussi pour le moral, pour le bien-être. Donc, moi, je conseille toujours d'aller voir des gens qui sont plus avancés que vous. Quand vous choisissez des réseaux, des cercles, des collectifs, c'est important d'aller vers des gens, bien sûr, qui vous plaisent, qui vous animent, mais aussi d'aller vers des gens qui sont plus loin dans leur activité, dans leur parcours professionnel, parce qu'eux sont très précieux dans les conseils en fait, qu'ils vont vous apporter. Ça peut être aussi des choses très simples, hein, d'outils, de méthodes, de logiciels que vous ne connaissez pas, des choses comme ça, qui vont vous permettre vraiment de passer à l'étape suivante. Mais clairement, votre réussite dépend en partie des gens que vous rencontrez, des gens que vous côtoyez. Donc, il faut aller vers les gens, même si ça peut être peut-être difficile au début parce qu'on est timide, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on est introverti. Il faut le prendre dans ce cas-là comme un challenge, comme un jeu, comme un défi, de se dire, bon, bah voilà, ce mois-ci, je m'inscris à tel événement qui a l'air bien pour moi, ou je contacte telle personne qui m'inspire parce que j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie de lui poser des questions. Il faut se lancer aussi des petits défis comme ça, parce que ça permet de mettre un peu de jeu dans quelque chose qui peut être au début peut-être un peu désagréable, mais qui au final vous aidera vraiment énormément sur la durée.
Oui, et puis par rapport à ça, par rapport au rôle du réseau et ou des collectifs, des gens qui vous entourent, il y a plusieurs niveaux. Alors on le disait, c'est déjà personnellement se créer son cercle de confiance autour de soi, qui est votre team de gens autour de vous qui vont vous aider plutôt que de vous manger votre énergie et votre temps inutilement. Ça se construit aussi, ça. Ça oblige parfois à faire des choix courageux là-dessus. Je vois pas mal de femmes qui n'osent pas taper dans un certain nombre de trucs qui les épuisent. C'est parfois ça qui les plombe aussi dans le business. Monter une entreprise, ça demande de l'énergie. Et ça veut dire qu'il faut avoir organisé autour de soi une équipe, on va dire, familiale, amicale, et un réseau qui va vous soutenir plutôt que de vous renvoyer ses peurs par effet miroir. Là, ça, c'est le pire des services que vous puissiez vous rendre quelque part si vous êtes encore là-dedans. La deuxième chose, c'est le rôle des réseaux entrepreneuriaux. Tu disais sortir de l'isolement. Pour moi, il y a une différence entre sortir de l'isolement, c'est-à-dire avoir des amis entrepreneurs avec qui on peut aller manger des quiches et des pizzas, boire un coup et se sentir moins seul. Et l'autre chose, c'est s'élever, c'est-à-dire des gens qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous aider à passer à l'étape supérieure. Et ça, ce n'est pas forcément le réseau du coin, c'est plutôt le mentor ou la coach. Moi, c'est ce que je fais. J'aide des personnes justement à passer les marches en prenant en considération leur personnalité là où elles en sont. Et elles rameraient pendant des mois à essayer de trouver des solutions. Et en 30 secondes, on trouve la solution qui va vite, qui les épuise pas et qui leur fait plaisir et qui leur permet doucement de franchir la marche supérieure dans la joie et dans la bonne humeur. Et quelque part, c'est essentiel pour un entrepreneur d'investir sur soi, parce que ça, c'est un mythe qui vient de l'école, le fait qu'en travaillant dur et en essayant de faire parfait, on va réussir. Non, c'est essentiel de travailler correctement pour réussir à le faire. Et ça, c'est une des grandes différences entre le salariat, qui est plus branché école, et l'entrepreneuriat. Il faut créer vos propres règles et vous entourer des bonnes personnes.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Sur la notion de soutien par rapport à l'entourage, je pense que c'est important aussi de dire aux femmes que parfois, on attend beaucoup de son entourage. On attend que tous les membres de notre famille, que tous nos amis nous soutiennent, comprennent notre projet et nous aident. Et quand ce n'est pas le cas, on est déçu et on ne comprend pas pourquoi. Et on passe beaucoup de temps à ressasser en fait ça. Et je pense qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. C'est-à-dire que parfois, vos proches ne vont pas comprendre pourquoi vous faites ça. Ils ne vont pas comprendre votre projet. En effet, il y a un effet miroir. Eux n'en sont pas à cette situation-là et ils vous voient faire. Donc, il peut y avoir une sorte de décalage, d'incompréhension. Dans ces cas-là, je pense que l'important, c'est de se donner du soutien et en effet, de le trouver ailleurs aussi. Parce que plus on passe du temps et encore une fois de l'énergie dans des choses qui ne valent pas la peine, plus on se crame. Parfois, il n'y a pas besoin d'attendre des autres un soutien qu'ils ne peuvent pas forcément nous donner à l'instant T. Il faut passer plutôt du temps à trouver des soutiens ailleurs et surtout à être son premier soutien quand même. Comment voulez-vous, si vous ne croyez pas en vous, que vous ne vous soutenez pas, que vous passez votre temps à vous dire « je suis nulle, je ne vais pas y arriver », etc. Imaginez tout ce que ça fait dans votre cerveau et au quotidien, ça ne va pas. Donc, en effet, soyez, j'allais dire bienveillante, mais bon, parce que c'est un mot de vaudé, mais il faut essayer de se donner un petit peu de douceur quand même dans la façon dont on se traite et de ne pas enfoncer le clou. Vous êtes votre premier soutien, vous êtes la personne la plus indispensable dans votre vie et dans votre activité. C'est très important. Et moi, je vois des femmes qui font des choses extraordinaires, qui ne s'en sentaient pas capables. Ce n'est pas des femmes qui arrivent en disant je vais tout cartonner, etc. Non, ce sont des femmes qui, comme tout le monde, ont des doutes, parfois n'ont pas confiance, ne savent pas comment faire, ont peur, et elles y vont quand même. Et petit à petit, les choses se transforment. mais ça prend du temps. Et voilà, pour avoir cette persévérance qui est quand même inhérente à l'entrepreneuriat, il faut prendre ce temps d'introspection pour voir ce qu'on s'inflige à soi-même avant de penser à l'entourage. Comment je me comporte vis-à-vis de moi-même, c'est important. Ouais.
Eh bien, je te remercie parce que je pense qu'on va en avoir inspiré beaucoup. Du coup, je vous rappelle ce livre, Entrepreneur d'exception aux éditions Erol. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de cette interview pour pouvoir le retrouver. On te retrouve également sur les réseaux.
Sur Instagram, sur LinkedIn, j'ai mis mon mail à la fin du livre pour créer une sorte de chaîne de l'audace, justement, pour inviter les femmes à partager leur audace, puisque l'audace est un des piliers du livre, qui est justement inspiré par Nicole Cliquot-Ponsardin, dit la veuve Cliquot, et qui fait partie des projets des femmes. Et donc voilà, il y a toute une partie où on peut se partager aussi nos audaces pour ne pas rester seule, encore une fois, pour s'entraider, se soutenir.
Bon, et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire également dans la description pour réagir par rapport à tout ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Et puis, nourrir nos réflexions pour pouvoir en accompagner d'autres. Je te remercie encore.
Merci beaucoup, Ophélie. Merci à toi.
Et je vous dis à très bientôt.